On veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci d'avoir fait retentir ta parole dans nos vies. Merci de nous ouvrir l'esprit, le cœur, l'intelligence pour accepter, comprendre, choisir cette parole vivante. Merci de continuer la révélation de ton Fils, de ton bien-aimé, dans chacune de nos vies, pour que chacun d'entre nous devienne à son tour un bien-aimé. Seigneur, nous voulons recevoir, serrer ta parole dans notre cœur. Merci pour tous les exemples de l'Écriture qui l'ont fait. Merci parce qu'elle est un appui, un chemin, une lumière. Merci pour tout ce que ta parole peut être pour nous. Je veux te remercier de l'avoir proclamé dans ma vie et merci de me permettre de la proclamer encore ce matin. Amen. Il y a quelques mois maintenant, on a attaqué tout un thème. Qui est l'Éternel des armées ? Yahvé Tsebaot ou YHWH, je préfère maintenant souvent dire le tétragramme, puisqu'on ne sait pas très bien quelles étaient les voyelles. Qui est l'Éternel des armées ? On a vu ce Dieu qui habite dans les lieux très hauts, dont le trône est porté par des êtres extraordinaires, appelés séraphins, chérubins. On a vu que ces êtres avaient quatre faces, quatre visages, quatre manières d'être. Ils étaient avec un visage de lion, un visage de bœuf, de veau, un visage d'homme, un visage d'aigle. Ça peut être aussi quatre personnalités de Christ. On a vu que nous étions appelés à être assis dans les lieux célestes, en Christ, plein accès en Christ, et on a vu, cela ne pouvait se faire seulement qu'au travers de la justification par le sang de Jésus-Christ. Aucune autre position spirituelle n'est tenable en dehors de celle-là. Toutes mes justifications personnelles n'ont aucun accès devant le trône de Dieu. Seule la justice du Christ Jésus est audible, est acceptable et perceptible par Dieu. On a vu que tout cela, on ne pouvait le vivre que par l'Esprit de Dieu, en renonçant à notre propre force, à notre propre puissance. C'est un métier. Pas beaucoup d'hommes et de femmes trouvent ce chemin. On le voit, Jean-Marc vient d'en parler, hein. Les êtres humains, les hommes politiques, les hommes de médias ont un ego tellement surdimensionné. Comment pouvoir accepter d'être nu devant Dieu ? Avec seulement la couverture propitiatoire, la propitiation que Christ nous offre. On a vu que notre vie était cachée en Christ. Je vous avais montré une petite feuille avec mon nom. Et puis on a vu que si je la mettais dans ma Bible, eh bien, partout où va ma Bible, mon nom va avec quand je suis en Christ. Partout où est Christ, je suis. C'est une source de contentement et c'est une position spirituelle tellement sécurisante, confortable. Enfin, pouvoir poser les valises, tout ce qui est lourd, tout ce qui pèse dans nos vies, et dire, pouvoir remercier le Seigneur, merci, parce que je suis en toi, en Christ, caché en Christ. On a vu que Dieu a déchiré les cieux pour une relation personnelle avec nous. Il a fait une brèche dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Si on prend l'image de l'allumette qu'on casse, Si on essaie de remettre les deux morceaux, il suffit d'appuyer au milieu et puis elle casse. Est-ce que ce cœur de chair est accessible à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. On a vu qu'il y avait en Dieu cette notion d'être un lion, l'Éternel des armées. Dieu est aussi un lion, Dieu est aussi un Dieu qui combat pour son peuple, pour l'humanité, jusqu'à une certaine mesure. Il y a un temps où le combat a changé. Sur la croix, le combat n'était plus le même. Il y a dans le corps de Dieu quelque chose du bœuf, du veau, cet esprit du serviteur. Et l'Écriture nous parle de serviteur souffrant, de celui qui renonce à un certain combat simplement pour abandonner sa vie en sacrifice vivant. L'Écriture dit, voilà, cela, faites cela chacun. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Christ nous a montré le chemin. Quand Christ a réuni ses disciples, on a vu dans Jean 13 qu'il était au service de ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Et puis il a laissé ce message, cette béatitude. Faites-en autant. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Même chrétien, on ne doit pas l'oublier, même apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, comment est-ce qu'on peut rester dans le service toute sa vie? Christ est venu non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie comme rançon pour chacun d'entre nous. Christ a eu un temps de renoncement. Il a renoncé à cette victoire, à cette royauté du lion pour un temps. Il a renoncé à cette vision sur les hauteurs de l'aigle qui voit beaucoup de choses, qui discerne beaucoup de choses. Il s'est fait serviteur, il s'est fait homme pour chacun d'entre nous. J'aimerais juste ce matin, voilà, qu'on se rappelle justement qui est l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. On prend un texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, les versets 13 à 18. Moïse répondit au peuple, hein, c'est ce fameux passage de la mer Rouge. Israël a quitté l'Égypte, ils sont très nombreux. Et puis tout d'un coup, il y a un obstacle sur leur chemin. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Là aussi, bon, je fais souvent référence à mon métier de jardinier. Pour moi, c'est un métier qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Être chrétien, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est un métier que d'apprendre à garder le silence, à placer mon droit dans le cœur de Dieu, à le présenter à Dieu. Si certains, ce matin, ont l'impression d'être pressés par l'ennemi, par le péché ou par d'autres choses, l'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde le silence. C'est un métier, c'est un apprentissage spirituel. C'est pas facile de garder le silence quand on vit des choses difficiles. On a tellement besoin de se justifier. Mais Seigneur, il y a ça. Seigneur, tu sais bien que j'ai raison. Voilà, pouvoir simplement dire, voilà, Seigneur, je te remets mon droit. C'est toi qui es juste, c'est toi qui agis pour la justice. Exode 15, les 7 premiers versets. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval, son cavalier. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars, le Pharaon, son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Christ Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il combat pour nous. Dans la mesure où je peux lui remettre. Ce qui est mon combat. Peut-être il y a parmi nous des gens qui sont dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leur volonté, qui sont dans des combats, qui ne savent pas très bien. Le Seigneur Jésus combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Remets ton sort au Seigneur et il agira. Je dis des choses que peut-être, sans doute, tout le monde sait. Déjà, mais c'est bien de le revoir, de se le répéter ensemble. Il y a des combats dans nos vies où Dieu nous délivre et naît dans nos vies un cantique nouveau. Ce cantique de Moïse est un cantique prophétique, messianique. Parce qu'un jour, tout le peuple de Dieu le chantera. Israël délivré le chantera. Il nous en est parlé dans l'Apocalypse, oui, depuis le début de l'écriture jusqu'à la fin. Apocalypse, chapitre 15. C'est Apocalypse 14, désolé, j'ai fait une coquille. Apocalypse 14, 3. Il chantait un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Un jour, la totalité d'Israël pourra entonner ce nouveau cantique. Quelques millénaires après la mer Rouge. Je ne sais pas, quand vous avez vécu des combats avec Dieu, pour Dieu, et que Dieu a sorti de l'ornière, est-ce que l'Esprit Saint vous a inondé, a déversé en vous ce chant nouveau, ce cantique nouveau? Ça peut être un cantique en langue, ça peut être un cantique foi et louange, Jeunesse sans mission, peu importe, ça peut être des paroles simplement qui montent de nos vies et qui chantent la gloire de Dieu. C'est tellement extraordinaire de pouvoir chez soi, voilà, en marchant ou assis, de pouvoir laisser ce cantique nouveau venir dans nos vies. De retrouver mon Apocalypse 15, 3, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Nous avons l'insigne honneur de pouvoir chanter un cantique nouveau de manière prophétique avant tout le monde. Il chantait le cantique de Moïse, le cantique du serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. J'aime beaucoup ce cantique d'Exode 15, qui est un cantique où on rend à Dieu la gloire qui lui est due. L'Éternel combattra pour toi. On poursuit avec quelques textes, voilà pour voilà, que la conviction vienne petit à petit, que l'Écriture parle beaucoup de ce Dieu qui combat pour nous. Deutéronome chapitre 1, le verset 30, Moïse rappelle au peuple, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Toute la conquête d'un pays nouveau va se faire parce que Dieu combat. Dieu combat pour Israël. Juste un monde contemporain, 1948, 1967, 1973, toutes les nations autour d'Israël, Syrie, Égypte, etc., se sont liguées pour essayer de réduire en cendres ce jeune pays. Si vous trouvez des récits, hein, des soldats qui ont participé, le nombre de miracles, ils étaient en nombre inférieur. Mais comment Dieu a combattu et comment il va le faire encore? Peut-être que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, beaucoup d'armées vont se retourner à nouveau contre Israël, contre Jérusalem. Et puis là, ce sera le combat, un des combats de fin. Le combat final. Josué, chapitre 23, verset 3. Voilà, c'est bien d'étayer nos convictions sur l'Écriture. Josué 23. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. L'Éternel a combattu pour Israël, pour qu'il soit pleinement installé jusqu'à David, Salomon, et puis que ce tout petit royaume continue d'exister. Et s'il existe encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu combat encore pour Israël. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 15, c'est tous les rappels que Dieu fait à Israël. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 15. C'est un contexte un peu particulier. Les Ammonites, les Madianites, qui sont des ennemis d'Israël, se liguent contre Israël. Ils disent que leur armée est comme un torrent qui coule. Et Josaphat sait qu'il n'est pas sûr de gagner. Donc il demande un jeûne à tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Si je les combats dans mon cœur, dans ma vie, peut-être que je peux prendre un temps de jeûne, mais peut-être que je peux prendre un temps à part, un temps de prière, un temps de louange et d'adoration. Beaucoup de combats se résolvent dans l'adoration. Pouvoir à nouveau se fortifier en se repassant dans nos cœurs, dire à Dieu qui tu es, et dire toute l'admiration, toute la manière extraordinaire dont il est pour chacun. Israël est appelé pendant toute sa vie à se rappeler quel est ce Dieu extraordinaire qui a combattu pour lui de manière régulière. La victoire que Dieu leur a donnée est devenue une victoire prélude, c'est une victoire prophétique, victoire messianique. Elle est reprise dans les prophètes et jusqu'à cette fameuse bataille d'Armageddon dont on fait des films et dont on parle, c'est la même chose. Dans la vallée de Josaphat, dans la vallée de Réacadre, la vallée de la bénédiction, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Parfois, l'ennemi fait dans nos vies une œuvre qui le trompe. J'ai eu moi-même à régler quelques problèmes comme ça dans ma vie. Et je me rappellerai toujours des professeurs de collège qui disaient « Mais il y a des bénédictions de l'ennemi. Il faut les refuser. » Et l'ennemi s'auto-détruit. C'est une bonne nouvelle. Parfois, on se prend la tête. Comment est-ce qu'on peut simplement remettre nos combats, nos vies, les nœuds dans nos vies, les moments difficiles, les moments charnières? Comment pouvoir les déposer au pied de la croix et les abandonner? Et dire, Seigneur, voilà, je te confie ce qui me fait les soucis en ce moment. Et je veux confesser que tu es celui qui intercède et qui combat pour moi. Christ a été homme, homme de douleur. J'aimerais reprendre avec vous un texte dans Philippiens. Texte connu, alors je dis souvent, j'ai tellement de textes préférés. Philippiens 2, 5, 10, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à arracher. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce qui vient en premier, c'est le dépouillement, l'humiliation et l'obéissance. Beaucoup de combats dans nos vies se règlent, se régleront parce que je développe cette stratégie. C'est une stratégie de renoncer soi-même à imposer son droit, à imposer sa force, à imposer sa puissance. Avant d'être souverainement élevé, le Christ Jésus s'est dépouillé lui-même. Le Père ne l'a pas forcé. Il y a des choses, c'est nous qui devons le faire. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre part. Une bonne part de la relation d'aide, c'est de, dans un dialogue avec un frère, une sœur, de pouvoir soi-même remettre les choses à Dieu. Pouvoir les déposer au pied de la croix. Après, je disais, c'est un métier. C'est un exercice spirituel. Quelque chose qu'il faut apprendre. Jésus l'a appris. Il dit qu'il a appris l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Si Christ l'a appris, à combien plus forte raison devons-nous l'apprendre aussi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de pic dans nos vies, s'il n'y a pas de temps dans la vallée. Puis là, on retrouve le psaume 23, quand je suis dans la vallée de la mort, tu es avec moi et tu me conduis dans des choses plus agréables. Mais il y a des choses dans nos vies qui ne peuvent se résoudre qu'au travers de la vallée, qu'au travers de l'humilité, de l'obéissance, du renoncement. C'est pas facile de renoncer. Mais quand on renonce en Christ, la récompense, la victoire est tellement extraordinaire que ça crée ce chant nouveau dans nos vies, qui nous donne envie de louer, de remercier Dieu, de le bénir, de faire des actions de grâce. Christ, 100% serviteur, homme. J'aimerais lire avec vous dans Apocalypse, au chapitre 5, des textes qu'on a déjà lus, mais j'aimerais qu'on le relise ensemble. L'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies des parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Christ a renoncé à ce statut, à cet état de lion. C'est les images qui sont parfois doubles dans l'écriture qu'on a un petit peu de peine à comprendre. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Position de souveraineté, position royale. Et je vis au milieu du trône un agneau comme immolé. Christ a renoncé pour un temps à cette royauté, à cette souveraineté de lion, pour un temps. Ça ne va pas durer. À un moment donné, il va être à nouveau réinvesti. Et c'est un agneau qui vient et qui ouvre le livre. C'est l'agneau de Dieu qui ouvre l'écriture pour chacun d'entre nous et qui, par son esprit, nous aide à la comprendre, c'est des prières que l'on peut faire. Seigneur, mets en moi cet esprit d'humilité d'obéissance, de renoncement, cet esprit de sacrifice de l'agneau, que je puisse ouvrir le livre et que les sceaux soient brisés les uns après les autres et que ma compréhension, mon intelligence spirituelle puisse se développer. C'est une tentation dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église, de pouvoir être un lion. L'Église, à partir du 3e, 4e siècle, a pensé qu'elle pouvait régner sur les nations. Il y en a encore des restes aujourd'hui. Certains pensent qu'ils peuvent être amenés à régner. C'est dur, hein, de renoncer au pouvoir, à la force, à la domination. Tous les êtres célestes se prosternent devant l'agneau. À combien plus forte raison chacun d'entre nous. Ils tiennent des harpes, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nos prières sont écoutées, entendues. C'est comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez conscience que les êtres les plus éminents de la citoyenneté des cieux écoutent nos prières et les présentent à Dieu comme un parfum, comme quelque chose d'agréable, de bonheur. Tous les dimanches, quand j'entends vos prières, je sais que c'est comme des parfums qui montent devant Dieu. Il chantait un cantique nouveau, qu'on puisse chanter ensemble ce cantique de l'agneau, ce cantique nouveau, parce que Christ est entré dans notre vie. Et on peut dire, tu as racheté, tu m'as racheté pour Dieu. 3 semaines, on est allé à un culte à Papété, à Tahiti. C'était un culte en polynésien, une grande église évangélique, couleur rose, rose vif. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, il fait très chaud. Je n'ai pas compris la prédication, mais ce n'est pas ça. Ce qui m'a touché, c'est que sans avoir de musicien, dans l'assemblée, par groupe, alors je ne sais pas si c'est des familles ou des quartiers, tout d'un coup, les gens entament des chants polyphoniques. Les hommes ont des voix graves, les femmes, et puis il y a des réponses. Et puis quand un côté a fini, il y en a un autre qui reprend, puis toute l'assemblée. Ça m'a beaucoup touché. Et puis j'ai repensé à cette phrase de l'Écriture. L'Évangile aille jusqu'aux îles, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je me suis dit, waouh, l'Évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Il reste encore quelques langues à traduire, mais ça m'a ému d'être là avec des Polynésiens qui chantaient en tahitien, en polynésien, et de me dire, voilà, toutes les îles ont vu ton salut. Ah, il reste peut-être encore des langues et des peuples à toucher, mais en tous les cas, ça m'a touché. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Après un temps de renoncement, d'obéissance, d'humilité, viendra un temps de règne. Jean-Marc avait choisi le chant « Règne en moi ». Que Christ règne en nous. Si Christ règne en nous, un jour nous régnerons avec lui. Des choses extraordinaires. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et puis on continuera ce voyage aussi pour voilà, connaître cette identité de Dieu. L'Éternel des armées, Dieu combattra pour vous. On va rendre grâce à nouveau, Père Céleste. Merci d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, notre esprit à ta parole, Merci de nous aider à te faire entièrement confiance. Merci de nous aider à te remettre toutes choses, à y attendre les solutions de toi. Que ce soit toi qui combattes dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de tes enfants, de tes bien-aimés. Seigneur, viens défaire les nœuds, viens anéantir les projets de l'ennemi dans nos vies. Tu fais que les projets de l'ennemi dans nos vies se retournent contre eux, contre lui. Merci de nous installer dans cette victoire de Christ. Voilà, je loue ton nom, Seigneur, nous louons ton nom ce matin. Parce que tu es celui qui intercède, et qui prend soin et qui combat pour nous, pour chacun. Amen.